Alors, voilà, c'est l'occasion de maintenant dire bonjour de manière formelle à tout le monde. Comme ça, j'aurais dit bonjour à tout le monde de manière formelle. C'est une joie pour moi de me retrouver parmi vous. C'est une joie de revoir beaucoup d'entre vous avec qui j'ai cheminé pendant le début de l'année, pendant ce temps de remplacement parmi vous. Et aujourd'hui j'ai la charge, le privilège de vous apporter la parole du Seigneur, l'enseignement de la parole du Seigneur. Je vais remonter le pupitre un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos où ils font exploser ces vieux immeubles, ces vidéos dites de démolition? Elles sont très impressionnantes des fois, et des fois elles sont aussi assez intéressantes à voir. On aime bien voir ça, tout d'un coup il y a l'explosion, puis il n'y a rien pendant un instant, on entend le bruit, et puis tout d'un coup il y a tout l'immeuble qui s'effondre. Alors c'est... des vidéos que moi je me souviens que j'aimais bien regarder ou que j'aime bien regarder de temps en temps. Enfin, ça peut être intéressant, disons. Je passe pas mes soirées à ça, hein, je vous rassure. Hein. Mais aujourd'hui, je veux faire un parallèle parce que le Seigneur, il a fait la plus grande œuvre de démolition qui existe. Si on fait un parallèle, hein, c'est un parallèle un peu étiré, mais quand même. Et je vous invite à écouter la lecture dans la parole de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 11. Éphésiens 2, à partir du verset 11. Et Paul écrit ceci à la communauté d'Éphèse. C'est pourquoi, souvenez-vous, qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, eh bien, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membre de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. cette lettre de Paul aux Éphésiens, eh bien, elle aborde beaucoup les questions de l'unité chrétienne. Et j'ai beaucoup apprécié que les choix des chants ce matin allaient aussi dans le sens de ce message. Elle aborde aussi la question de notre paix avec Dieu au moyen de l'œuvre de Jésus. On parle beaucoup de la paix avec Dieu, on parle beaucoup de notre réconciliation avec Dieu le Père, on encourage beaucoup les non-croyants à se réconcilier avec le Père, mais on voit que dans notre passage, il est aussi question d'une réconciliation dans l'Église entre, à l'époque, les non-juifs et les juifs, pour d'autres traductions, les juifs et les païens. Et cet aspect-là est aussi quelque chose que nous sommes appelés à vivre avec peut-être un autre regard. Il est moins question des distinctions entre juifs et non-juifs parmi nous, parce qu'il y a peu de croyants d'origine juive, normalement, parmi nous. Mais par contre, souvent, il y a plein de choses dans les églises qui opposent les personnes, qui les divisent, que ce soit la race, que ce soit le statut social, et plein d'autres choses dans ce genre. Et ce texte que nous avons lu, et dont je vais expliquer deux, trois choses, eh bien, nous encourage justement à déposer toutes ces choses au pied de la croix, au pied du Seigneur, pour qu'il les enlève et les détruise. Dans notre société, dans notre monde, on parle tout le temps ou souvent de comment on peut bien vivre ensemble. Et le monde cherche plein de stratagèmes pour essayer d'unir les gens. Eh bien, mes amis, mes frères et sœurs, la clé pour une paix durable entre nous sur la terre, et cette paix-là, elle ne viendra que quand le Seigneur reviendra, mais néanmoins, nous devons être des faiseurs de paix. La clé, c'est la personne du Sauveur, Jésus-Christ. Je le disais un peu, cette lettre de Paul a été écrite à l'église d'Éphèse, on pense vers l'année 60 et 64 environ. Paul avait déjà écrit beaucoup de ses lettres du Nouveau Testament à cette époque. Il avait écrit les Galates, les Romains, les Corinthiens, ainsi que Thessaloniciens et Philippiens. Et quand Paul écrit cette lettre, eh bien, il est en prison. Il le dira au chapitre 6, « Je suis ambassadeur dans les chaînes ». Donc c'est une lettre, encore une fois, écrite par un prisonnier, ce qui nous fait toujours réfléchir à nous qui sommes en pleine liberté. Paul avait visité cette ville d'Éphèse, et cette ville d'Éphèse, c'était un grand centre administratif de Rome. Rome était une puissance d'occupation, évidemment. Et il y avait beaucoup de centres administratifs là, c'était une ville importante à ce niveau-là. C'était une ville aussi où il y avait eu un grand culte païen, et dans les actes, on voit que même Paul arrivait à un moment donné, ça fait il y a du tumulte, il y a une émeute qui arrive parce que Paul annonce le message de la foi, et ceux qui adoraient un autre Dieu sont fâchés parce qu'ils ne pourront plus vendre leurs petites idoles. Je simplifie. Mais dans cette ville d'Éphèse, Paul avait trouvé des personnes qui avaient eu la foi par la grâce de Dieu, et il y avait donc une communauté qui s'était fondée. Un verset très beau que j'aime beaucoup citer assez souvent dans cette lettre aux Éphésiens, ça se situe au chapitre 2, c'est les versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, ce salut ne vient pas de vous. Ce n'est pas le travail des œuvres, et c'est vraiment un beau verset qui nous donne justement une promesse de salut pour quiconque croit. Ce n'est pas le verset que je traite aujourd'hui, j'ai lu le passage que je veux traiter avec vous ce matin, mais je voulais citer ce verset-là en tout cas. Donc le problème dans cette ville d'Éphèse, c'est qu'il y avait des chrétiens qui avaient des origines spirituelles différentes. Il y avait ceux qui étaient issus en quelque sorte de la religion juive, et il y avait ceux qui n'avaient que peu de connaissances de cette religion juive. Et toujours dans le Nouveau Testament, eh bien, il y avait des faux enseignants qui essayent d'imposer à beaucoup de gens leurs fausses croyances, et notamment la croyance qu'il fallait respecter certains rituels du judaïsme pour vraiment être en lien avec Dieu au travers de Jésus même. on voit que Paul ici, eh bien, pour parler justement de comment on peut être attaché à Dieu, il va commencer par rappeler, par faire un rappel et demander aux croyants de se souvenir. Se souvenir. Dans la parole de Dieu, à de multiples endroits, que ce soit même dans le Premier Testament, Dieu nous demande de nous souvenir de quantité de choses. Il nous demande de nous souvenir notamment de ses commandements. Au peuple d'Israël, il demandait de se souvenir quand il était esclave en Égypte et de comment Dieu l'avait libéré miraculeusement. Aux croyants ici, eh bien Paul dit « Souvenez-vous de ce que vous étiez autrefois identifié comme non-juif dans votre corps, que vous étiez appelé justement incirconcis. Et souvenez-vous aussi qu'à ce moment-là, eh bien, vous étiez sans Messie, etc. » Il va citer différentes choses. Et mon premier sujet, c'est justement de montrer que pour être en relation avec Dieu, au travers de Jésus, il nous faut d'abord prendre conscience de notre état sans Jésus. Pour nous qui avons la foi, qui avons eu foi, nous nous rappelons de cela. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est important de prendre conscience de qu'est-ce que c'est une vie sans Jésus. Et nous le voyons ici, eh bien, c'était être sans Messie, c'est-à-dire être sans la promesse d'un libérateur, de quelqu'un qui va délivrer du problème principal de l'être humain, de son péché. C'est aussi être exclu du droit de cité en Israël à l'époque. Alors, pour les croyants qui ont connu Jésus, eh bien, on voit qu'effectivement, on pouvait leur faire le reproche. « Ah, vous n'êtes pas vraiment juif. » Eh bien, voilà, Paul va dire, « Ben voilà, à l'époque, effectivement, vous n'étiez pas dans le peuple juif. » Mais on verra que Paul donnera la solution à cela. Néanmoins, le parallèle pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est qu'il doit se souvenir, qu'il doit apprendre que tant qu'il n'a pas Jésus dans sa vie comme sauveur et seigneur, eh bien, il n'a pas accès aux promesses de Dieu. Il n'a pas accès à la grâce complète de Dieu. Il doit d'abord faire le pas de se tourner vers Dieu, de recevoir le Seigneur comme sauveur et seigneur, de demander pardon pour ses fautes et ses péchés, et de se confier pleinement en Jésus pour ensuite recevoir toutes ces promesses qu'on va détailler un petit peu ce matin. Mais on voit que les croyants étaient quand même encouragés à se souvenir de cela. Et nous aussi, en dehors de Jésus, eh bien, nous sommes dans la même condition, d'une manière un peu similaire. Même si c'est vrai que nous sommes plus distants par rapport à tout ce que Paul dit ici, par rapport à Israël et aux promesses. Mais à la fin, nous voyons néanmoins que Paul va parler du droit de cité en Israël, ce que je pourrais résumer comme étant le fait qu'en Dieu, avant de connaître le Seigneur, eh bien, nous n'avions pas vraiment une identité spirituelle, nous avions une identité de personne perdue. Nous étions sans espérance. Alors là, ça nous parle probablement plus, et ça parle probablement à beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Effectivement, une vie sans Jésus, ce n'est pas simplement une vie d'une personne qui n'a pas la foi, mais c'est une vie d'une personne qui, en réalité, si elle pense réellement à son issue de cette vie, eh bien, elle n'a pas d'espérance. Parce qu'il y a la mort, et il n'y a pas de solution à la mort pour quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Et ça, c'est important qu'on le dise à quiconque veut entendre. Mais c'est aussi important que nous aussi, nous réalisions que sans Jésus, sans la vie du Seigneur dans notre vie, eh bien, il n'y a pas d'espérance. Nous devons fonder notre vie sur le Seigneur. Ils étaient sans Dieu dans le monde. Alors, sans Dieu, c'est littéralement, c'est le mot dans le texte d'origine, c'est le mot athée, enfin un dérivé du mot athée. Et il y a plein de gens qui se disent « Ah oui, 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 moi je suis athée, c'est comme cela et je ne veux rien entendre de la religion. » Eh bien, ici, la parole de Dieu dit que tout le monde, à l'origine, est athée. Mais que par la grâce du Seigneur, on peut devenir justement croyant en Dieu. D'ailleurs, il y a des prénoms comme ça. Timothée, c'est qui honore Dieu. Théophile, c'est celui qui aime Dieu. Il y a plein de noms comme ça qui donnent une petite indication sur justement ce que c'est de croire en Dieu et qui sont très beaux. Voilà, mais je ne donne pas des noms pour ceux qui attendent des enfants. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Hein, mais ne nommez pas votre nom à cause du message de ce matin, de votre enfant à cause de mon message de ce matin. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, cette question de l'espérance, eh bien oui, nous devons prendre conscience que quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement qu'il n'a pas la foi, mais c'est qu'il est dans un état sans espérance. Et la réalité, c'est que le diable va essayer de faire que cette personne qui n'a pas d'espérance va essayer de combler le vide qui est en elle par toutes sortes de choses, par la recherche de l'argent, par la recherche du pouvoir, par la recherche du plaisir, par la recherche de plein de choses. Et ces choses-là vont comme meubler la vie du non-croyant, vont le remplir, mais ne vont pas lui donner une satisfaction sur le long terme, s'il est honnête avec lui-même. Parce que toutes ces choses, eh bien, elles peuvent disparaître du jour au lendemain, elles peuvent nous être enlevées, comme la santé également, le travail. Et la réalité, c'est qu'il n'y a vraiment que le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie qui nous donne une espérance qui va jusque dans la vie éternelle. Une espérance dans notre vie d'aujourd'hui et une espérance pour la vie éternelle. J'avance dans notre passage. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons justement être rapprochés de Dieu et recevoir cette espérance, parce que Dieu, justement, a donné Jésus et que Jésus a versé son sang. Et c'est rappelé à plusieurs reprises, il me semble, en tout cas dans la parole de Dieu, évidemment. Mais ici, il est dit, « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Il n'est pas facile pour nous de réaliser à quel point c'était une bonne nouvelle. Mais il faut un peu réfléchir à l'ancien peuple d'Israël et notamment au temple qui était à Jérusalem. Et le croyant juif, quand il voulait vraiment honorer Dieu et quand il était appelé à se réunir à Jérusalem pour des fêtes, eh bien, il ne pouvait pas venir comme cela, les mains dans les poches. Il devait apporter avec lui très souvent des animaux spécifiques et ces animaux devaient être mis à mort et le sang de ces animaux devait couler. C'était la manière dont Dieu avait décidé qu'on allait l'adorer, c'était les conditions, mais c'était aussi pour montrer à quel point l'accès à Dieu était lié à la perte, à la victime, au fait qu'un animal devait être mis à mort. Alors c'est quelque chose qui nous choque probablement, mais c'est une réalité, c'était comme cela que Dieu avait prévu les choses, dans le but justement de montrer qu'un jour, il allait y avoir un sacrifice qui allait en quelque sorte être suffisant et résumer tous ces sacrifices d'animaux. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus, évidemment. Ce sacrifice-là eh bien, fait que celui qui a la foi en Jésus aujourd'hui, eh bien, il est assuré d'être proche de Dieu, d'être rapproché de Dieu. Non seulement cela, eh bien, l'apôtre Paul explique encore que justement ce sacrifice nous rapproche de Dieu, nous rend proche de lui, mais qu'il crée la paix. Au verset 14, Paul écrit « Il est notre paix ». Et c'est beau de voir et important de comprendre que vraiment Jésus-Christ, non seulement il nous donne vraiment la paix avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons croire. Souvent, nous entendons des chrétiens qui disent, ou parfois j'ai entendu certains croyants qui disent « Ah, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, je ne suis pas sûr que Dieu m'a pardonné. » Eh bien, mes frères et sœurs, en nous fondant sur la parole de Dieu, nous devons affirmer avec foi que nous avons été rendus proches de Dieu, que le sang de Christ nous a rachetés, qu'il a pardonné nos péchés, si nous sommes en Christ, évidemment. Et que par cela, eh bien oui, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'était le titre d'un ouvrage de Billy Graham, un des premiers livres que j'avais lu quand j'étais ado, enfant. C'est un ouvrage qui est très joli d'ailleurs. Mais vraiment, cette paix, c'est quelque chose de réel que chacun peut expérimenter s'il ne l'a pas expérimenté déjà. L'autre chose sur laquelle Paul insiste, c'est que cette paix, non seulement c'est envers Dieu, Dieu le Père, si on veut, mais c'est également entre les êtres humains, entre les croyants de l'Église. Et là, c'est une partie de ce message ce matin, c'est que Dieu nous appelle à être en paix, à être réconciliés également les uns avec les autres. Et ça, évidemment, c'est un bon principe, hein. Mais quand on veut le mettre en pratique, souvent, on a un peu de peine parce qu'on se dit « Ah non, j'ai pas envie d'aller demander pardon ou d'accorder mon pardon à tel frère ou telle sœur. » Et on se dit peut-être aussi des fois « Ah non, la parole un peu méchante que m'a dit tel frère ou telle sœur, c'est pas du même ordre. Là, l'œuvre de Jésus, c'est beaucoup plus grand. » Eh bien, je dirais que le Seigneur, il est venu pour nous donner la paix dans tous les domaines de notre vie. Et que nous sommes appelés vraiment à vivre la paix et la réconciliation à tous les niveaux dans notre vie. Et que c'est le rôle du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de nous montrer qu'est-ce que nous sommes appelés à pardonner aux frères et sœurs, et ce pourquoi nous sommes censés aussi leur demander pardon des fois. Ce que Jésus a fait, Paul le décrit en des termes assez forts, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette image de démolition. Au verset 16, il est dit justement que Dieu a réconcilié les juifs et les non-juifs en lui-même, en Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Entre nous, mes frères et sœurs, il ne doit pas régner la haine ou la méchanceté, il doit régner l'amour. C'est ce que diront d'autres paroles dans la Bible également. Mais c'est ce à quoi je veux nous encourager ce matin, que nous puissions être encouragés et réconciliés les uns avec les autres. Le chemin pour la réconciliation est parfois compliqué, c'est vrai. Quand il y a eu des querelles qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, je ne sais pas, d'il y a très longtemps, on va dire, eh bien, c'est difficile, ça met du temps pour la réconciliation. Mais ce matin, je veux nous encourager, je veux encourager chacun à en tout cas entendre cette parole et à l'apporter dans son cœur devant Dieu et qu'au moins chacun puisse prendre la décision dans son cœur de chercher à être réconcilié avec son frère et sa sœur. Et c'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui montre à chacun s'il y a besoin de cela ou pas, et ce n'est pas non plus pour chercher la petite bête, si tout le monde est en paix et réconcilié, eh bien que le Seigneur soit loué. On l'a chanté, je crois, ce matin, dans le livre des Actes, il était dit, il y a une des paroles qui dit, les gens regardaient l'Église du premier siècle et disaient « Voyez comment ils s'aiment ». Et la réconciliation vécue entre nous est un des signes, justement, de l'amour de Dieu que nous avons reçu individuellement et qui est partagé les uns avec les autres. Et c'est aussi dans cette attitude, cette optique-là, que nous pouvons chercher à être en paix, à être réconciliés les uns avec les autres. Je l'ai dit au départ de ce passage, il était question justement de l'état de l'être humain sans Dieu, et c'est quelque chose d'assez triste, hein. Et à la fin, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 22, Paul va utiliser toute une série d'images pour montrer qu'est-ce qui s'est passé quand quelqu'un a cru en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'individu, de la personne, et qu'est-ce que ça a fait au niveau du groupe. Et la première des choses qu'il dit, c'est que vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Ici, il est vraiment question, et c'est mon prochain sujet, de notre nouvelle identité en Dieu. Quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous avons eu la foi, eh bien Dieu a fait de nous justement quelqu'un qui n'est plus perdu, quelqu'un qui a une nouvelle identité. Spirituellement, nous ne sommes pas étrangers à Dieu. Nous sommes devenus des personnes connues de Dieu parce que nous avons connu Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Nous ne sommes plus non plus des personnes qui ne savons pas où nous allons ou qui sommes des nomades spirituellement. Nous ne sommes plus des résidents temporaires. Nous avons une direction. Cette direction, elle est grande, c'est l'éternité, mais nous avons la parole de Dieu en attendant pour nous diriger dans notre marche sur la terre et pour prendre conseil. Nous sommes également devenus des nouveaux citoyens, des concitoyens des saints. Et ça, c'est quelque chose de très fort, et c'est une parole très forte également. Dieu nous donne une nouvelle identité. Il nous donne vraiment l'identité d'enfant de Dieu. Le premier chapitre de Jean dit que tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est une merveilleuse nouvelle. Et nous sommes donc également liés les uns aux autres, parce que nous sommes citoyens des saints. C'est-à-dire que nous sommes partie d'un nouveau royaume, en quelque sorte. Le royaume de Dieu, l'Église, et nous sommes liés les uns aux autres. Et dans ce sens-là, un autre passage nous dira que si quelqu'un souffre dans ce royaume, dans cette Église, eh bien, tous les membres du corps souffrent. Eh bien, nous sommes appelés constamment à prier les uns pour les autres et à porter les fardeaux les uns des autres. Une des autres images que Paul emploie, c'est qu'il dit que nous sommes membres de la famille de Dieu. Et ça, c'est une promesse merveilleuse, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Alors peut-être que parmi nous, il y a des vrais orphelins de père et de mère, et c'est quelque chose toujours de triste d'avoir perdu son papa ou sa maman, mais spirituellement, eh bien, nous avons vraiment le privilège de pouvoir appeler Dieu notre Père. Même le petit mot que Jésus a enseigné, c'est le mot « Abba », et c'est un terme affectueux qu'on traduit parfois par « Papa ». Et appeler le Créateur de l'univers « Papa », c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mes frères et sœurs. Et je vous encourage à vraiment considérer toute votre identité que le Seigneur vous a donnée en Jésus-Christ, justement. Il est dit également que notre foi, eh bien, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ici, par rapport aux gens qui voulaient émettre des doutes quant à la foi des croyants à Éphèse, et par rapport aux gens qui parfois essayent de nous faire douter de l'amour de Dieu, eh bien, nous pouvons affirmer que nous sommes dans la continuité, justement, des apôtres et des prophètes, que nous sommes dans la continuité de cette foi qui est transmise par rapport à ce que Dieu veut, et que donc nous n'avons pas à douter des promesses de la parole. Le fondement de tout cela, c'est Jésus-Christ qui est cette pierre angulaire. Je ne suis pas un maçon et je n'ai pas fait un apprentissage dans ce domaine-là, je n'ai pas fait d'apprentissage d'ailleurs, mais dans la construction des maisons, l'image classique qu'on dit, c'est que la pierre angulaire, c'est la pierre qui justement, si elle est mal orientée, mal faite, eh bien la maison va être construite de travers. Et donc elle a une grande importance. Mais ce qu'on peut dire spirituellement, eh bien, c'est que notre foi, elle est vraiment basée sur du solide, elle est basée sur Jésus-Christ. Nous voyons qu'à la fin de notre passage, eh bien, non seulement nous avons l'assurance d'avoir la foi qui est forte, qui est bâtie sur le Seigneur, mais que Dieu continue son œuvre de construction. Il est en train d'édifier ce bâtiment. Et Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ou de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Si nous réalisons ces paroles, eh bien, ça va aussi nous remplir de courage et ça va aussi nous aider à relativiser les échecs de nos communautés, des fois. On est déçu parfois des responsables de l'Église ou des croyants. Eh bien, ne soyons pas déçus, mes frères et sœurs. Allons de l'avant, soyons encouragés et sachons que Dieu, malgré les imperfections des fois de nos communautés ou même de nous-mêmes, eh bien, Dieu continue son œuvre. Si nous sommes dans la foi, si nous sommes sincères avec Dieu, eh bien Dieu nous aidera justement à retrouver courage et à croire aussi à l'Église locale et à croire que c'est bon de fréquenter l'Église locale. vers la fin de ce passage, une notion très importante, c'est que tout ceci est lié à toutes les personnes de ce qu'on appelle la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui sont agissants. Au verset 18, il est dit « À travers lui, à travers le Fils, nous avons accès les uns et les autres auprès du Père par le même Esprit ». Et ça, c'est un verset qui est très beau, qui nous enseigne justement que chacune des personnes de la Trinité eh bien, ont un rôle dans notre vie de foi, et c'est encourageant de voir cela. Mais c'est aussi une réalité qu'à la fin de ce passage, il est beaucoup question de l'action du Saint-Esprit, et que nous devons être ouverts justement à l'action du Saint-Esprit qui construit son Église. Et que c'est vraiment une grâce pour nous que d'être conduits par l'Esprit de Dieu en lien avec la parole et de nous laisser diriger par lui pour faire notre mission en tant que petite pierre dans l'Église du Seigneur. C'est l'apôtre Pierre, et c'est presque un jeu de mots, qui écrit justement dans sa lettre, une de ses lettres, que nous sommes des pierres vivantes. Et ça rejoint un peu ce temple saint qui est en train d'être construit ici. Pour cela, entre autres, eh bien, nous sommes appelés, comme je l'ai dit, à vraiment vivre des nouvelles relations entre nous, à vivre la réconciliation et la paix. J'en viens à la conclusion ce matin. Nous avons vu dans ce passage qu'il y a des différences entre les êtres humains, mais que ces différences, spirituellement, eh bien, Dieu peut effacer tout ce qui divise spirituellement les êtres humains. Et qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous avons toutes les raisons de vraiment être pleins d'espérance, parce que Dieu, il construit son Église, il bâtit son royaume, et que nous pouvons vraiment être au service du Seigneur dans cette Église, dans ce royaume. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle est un guide sûr pour notre vie, dans notre pèlerinage, dans notre marche sur la terre. Ce matin, j'aimerais te prier pour l'Église de l'Espérance, pour chacun ici présent. J'aimerais te demander que tu renouvelles le courage et la foi de chacun dans sa marche individuelle avec toi. J'aimerais te demander aussi, Seigneur, que s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas comme celui qui a versé son sang, ton sang pour eux, eh bien qu'ils puissent vraiment te recevoir comme Sauveur et Seigneur et prendre cette décision dans leur cœur. J'aimerais te prier encore, Seigneur, pour ceux qui doivent se réconcilier avec des non-croyants peut-être et qui doivent pardonner. Je te demande que ce passage les encourage à pardonner à des gens qui ne te connaissent pas, pas à se laisser maltraiter par eux, mais dans leur cœur, à les voir comme toi tu les vois. J'aimerais enfin te prier pour tous ceux d'entre nous qui te connaissons et qui avons peut-être besoin d'être réconciliés les uns avec quelqu'un dans l'assemblée. J'aimerais te demander qu'aujourd'hui, cette personne ou ces personnes puissent prendre la décision de se réconcilier avec leurs frères et leurs sœurs dans l'assemblée. Et que tout cela, Seigneur, eh bien, ça résulte en plus d'amour, plus de joie, plus de paix dans ton Église ici, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.